plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour, beaucoup de monde autour de la table de plus près de toi ce matin pour ces veillées flamenco. Nous n'avons pas dormi depuis hier soir, nous avons fait un grand feu de bois. Armel a mis en broche un... Qu'est-ce que c'est comme animal?
Un lapino? Un lapereau?
Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas à manger pour tout le monde, oui. Mais très mignon, un lapereau, très, très, très mignon. Vraiment l'équivalent d'un bébé panda. Et tout de suite le journal, et après on se retrouve pour la veillée flamenco. À tout de suite.
Radio Nova.
La menace de coupure d'électricité cet hiver s'éloigne puisque 7 réacteurs parmi les 8 actuellement à l'arrêt pour des contrôles sur leurs générateurs de vapeur vont pouvoir redémarrer d'ici la fin de ce mois-ci, ça a été confirmé. Le mur anti-intrusion, entre guillemets, de la rocade de Calais est achevé. Financé par le Royaume-Uni, l'édifice de 4 mètres de hauteur et 1 km de long vise à empêcher les migrants de monter clandestinement dans les camions. François Fillon en mode déminage, comment assouplir son programme sans le renier? Dans une tribune au Figaro, le candidat LR à la présidentielle se défend de vouloir privatiser la sécurité sociale. Manuel Valls est-il en capacité d'incarner le sursaut souhaité par François Hollande? Oui, répond Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale a décidé de soutenir l'ancien Premier ministre pour la primaire du PS. Cécile Duflot, Hervé Mariton et Patrick Menucci, qui comptaient se rendre à Alep en Syrie, n'auront finalement pas été plus loin que la frontière turco-syrienne. En même temps, vous allez me dire que c'est déjà pas mal, c'est vrai. Les trois parlementaires français entendaient accompagner le plus loin possible le maire d'Alep, qui était en visite en France ces derniers jours. Les autorités turques ont prétexté de la présence de bombes au chlore pour refouler les parlementaires. Déçu de ne pas avoir pu pénétrer en Syrie, la délégation s'est tout de même félicitée d'avoir pu rencontrer des responsables de l'ONU chargés de la crise syrienne. Cécile Duflot a assuré que le dispositif humanitaire et le plan d'évacuation de l'ONU étaient d'ores et déjà prêts, mais ne pouvaient être mis en place par la faute du blocage international. Reste que les forces gouvernementales syriennes ont annoncé avoir pris le contrôle de la quasi-totalité de la partie est d'Alep. 8 jours après le non des Italiens au référendum constitutionnel qui a provoqué la démission de Matteo Renzi, le nouveau Premier ministre Paolo Gentiloni a annoncé la composition de son gouvernement. Il a reconduit de très nombreux ministres, dont celui des Finances, de la Défense, de la Justice, de la Santé ou encore de la Culture. Le premier journal télévisé entièrement en langue indigène quechua a commencé à être diffusé au Pérou, pays en proie pendant des siècles à des discriminations à l'égard de cette culture. Il y aurait 4 millions de personnes qui parlent le quechua au Pérou et 8 millions dans la totalité de l'Amérique du Sud. Le coup d'envoi ce soir des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue avec, c'est du football, avec 2 matchs, Nantes-Montpellier et Sochaux-Marseille, suite des rencontres demain. Et puis malgré les récentes révélations des Football Leaks, vous savez ce vaste système d'évasion fiscale, eh bien Cristiano Ronaldo a été sacré ballon d'or hier soir, c'est la 4e fois, pas d'affilée. Le joueur portugais devance l'Argentin Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann.
Nova.
Nova. Veillée flamenco de Tito ce matin plus près de toi. C'est étrange comme il est 7 heures du matin à Paris l'hiver et comme il pourrait être 7 heures du soir en Andalousie un soir d'été. Les mains de Tito qui caressent sa guitare comme il caresserait l'épaule d'une femme aimée. Dans votre lit ce matin, vous vous retournez, la chaleur est insoutenable. Qui est cette personne qui partage mon lit qui n'était pas là hier soir? Et cette bouteille vide de l'autre côté, y a-t-il un lien entre le fait de ne pas connaître cette personne et le fait que cette bouteille soit vide? Peut-être, peut-être, elle bouge, la main sur l'épaule, le nez dans les cheveux, qui est-ce? Tout à coup un cri qui retentit dans l'appartement.
Je dois aller à l'école! Oui, bon, bah, il a tout gâché celui-là.
7h-9h, plus près de toi.
Magnifique reprise de Britney Spears par Max Rabeu. Alors, tout le monde est là autour de la table, ça s'agite, ça fume, il y a des cafés, il y a des idées, il y a des observations sur la société. D'abord, Marie Missé qui prépare sa revue de presse pour tout à l'heure. Marie, oui. Vous êtes là depuis quelle heure? Qu'est-ce que vous avez épluché? Qu'est-ce que vous avez vu?
5h-10.
5h-10, qu'est-ce que vous avez vu de bien ce matin?
J'ai
ou de mal?
Bien aimé, en une du Canard enchaîné, Marine Le Pen en parlant de la défaite de l'extrême droite en Autriche qui dit « ce n'est pas une défaite, c'est une victoire différée ».
Pas mal, on retiendra bien sûr cette expression. Si jamais nous aussi, ce qui ne nous arrivera pas, on rencontre des échecs dans la vie, on saura comment les commenter. Atmen et Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez, mon petit Christophe Delormeau?
Parle à Baba.
Qu'est-ce que tu as trouvé dans la
Alors,
presse?
Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose sur...
Dans quel journal? Il faut bien citer son support, tu vois, c'est ça, un peu comme ça qu'on travaille.
D'accord.
Bon, bon allez, non.
Je
non,
débute.
Allez.
Si, non, attends, j'ai un super truc. Il y a Bastien Valenzi qui a lancé le bar à bonnet à Paris. Il fait des bonnets. Hop, t'arrives dans le bar. Bonjour, je dois un bonnet avec un pompon. Et il te sert un bonnet.
J'ai l'impression que vous cherchez à me survendre cette info qui n'a aucun intérêt par un enthousiasme exagéré dans la voix.
C'est possible.
Mais est-ce voilà. qu'on repart avec le bonnet ? Excusez-moi.
Oui, je ne comprends pas. Donc on arrive, on boit du bonnet, je ne comprends pas cette info.
Mais non, on repart avec le bonnet. Puisque...
Mais pourquoi un bar ?
C'est
alors,
un
magasin. C'est plus convivial, on est sûr de repartir avec une casquette. Voilà.
Oui, accompagné, ça fait... Très bien. François, vous êtes de vos sites.
Je suis consterné, bah oui, comme vous. Comme
sûr,
vous.
Oui, non, bien sûr.
Quelle est-ce réaction que... voulez-vous avoir quand on est un honnête homme et qu'on entend ce qu'on vient d'entendre ?
Un honnête homme qui, dès le matin, fait son potager, parle à ses fruits, à ses légumes.
Ah oui.
Vous m'avez dit, c'est important pour nous, gens des villes, de ça garder un petit coin de verdure.
Oui, mais les légumes d'hiver, c'est pas bavard, vous savez.
C'est vrai. Vous, ils non. sont, non, mais on peut, à travers la terre, vous parlez aux racines, vous dites, ne t'inquiète pas, le printemps va arriver, c'est ça la méthode
française. Ben oui, mais Edouard, vous l'avez dit, à travers la terre, ça veut dire oui. que le son est affaibli. Donc,
on peut parler plus fort, un peu.
Oui, mais le poireau fait peu d'efforts.
Oui, mais pour peu que le poireau ait un cornet ou qu'il soit équipé par Audica ou une autre marque, le poireau entend à travers la terre. François, il y a des moments, je vous comprends
oui,
plus
oui,
du
oui.
tout.
J'ai l'impression qu'il vous énerve, Edouard.
Pas du tout. Attends, mon petit Delormeau. Atmen, vous êtes allé voir une avant-première.
Oui,
hier,
je suis sorti hier. J'ai vu quelques Armagnacs.
Oui, vous avez vu les Armagnacs. Oui, vous avez
voilà,
vu
c'est ça. C'est encore. Et non, je suis allé voir à fond.
Le film à fond qui sort bientôt.
Qui
ça vous
sort
a
le
plu.
21 pour les fêtes. Oui. On peut en parler qu'aujourd'hui. Oui, avec José Garcia et André Dussolier.
Ça vous a plu?
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Avez... C'est le dent de la mer des voitures. Voilà, on a peur, on n'a pas envie de prendre sa bagnole.
Les dents de la mer de la voiture,
c'est oui, oui, c'est vrai. On n'a pas envie de prendre la bagnole, on a très, très peur. C'est très drôle, très bien foutu. Plein de cascades, il n'y a pas de fond vert. Les acteurs font leur cascade. Ils y vont à fond et je vous conseille d'y aller à donf.
Alors, voilà. Quand ça sera sorti, évidemment, pas avant, parce que vous savez, il y a un rendez-vous manqué. Si on y va alors que le film n'est pas sorti, tout à
comme
coup,
elle disait, c'est une victoire différée, ce film.
C'est
voilà,
très
comme
bien. Armel, je crois
bien
qu'on
envie de voir.
On est propre, on va avoir plein de coups de fil, on va parler.
Je suis assez propre.
Je fais très très bien l'éditorial de l'émission. On a bien compris. On a bien compris. À tout de suite. Il est 7h12.
C'est vrai ça. C'est Radio Nova. On écoutait Soft Air à l'instant avec Lying Has to Stop. Les mensonges doivent cesser. 7h16.
Voilà. Pourquoi vous dites c'est Radio Nova au cas où quelqu'un tomberait par hasard et se dirait je voudrais ne plus jamais réécouter ça? Je comprends pas du tout.
J'ai peur que les gens se perdent.
Les gens se perdent dans les méandres comme ça des ondes FM. Tito accompagne toujours à la guitare cette matinée spéciale veillée. Thomas, vous vous intéressez beaucoup au salaire des joueurs de foot, à l'optimisation fiscale.
Énormément
vous êtes
en général, oui.
Un homme indigné ce matin, Thomas
Bongardler. Oui, indigné avec une question. Est-ce que Cristiano Ronaldo, qui a reçu le ballon d'or 2016 hier soir, est-ce qu'il va placer ce ballon d'or sur un compte offshore? Voilà,
oh,
ça s'appelle une question.
Là, là,
oh, bon, excusez-moi.
Qu'est-ce
voilà.
qu'il y a c'est la revanche un peu c'est, vous êtes ce petit blanc revanchard qui est remonté de ses champs.
1m80 quand même. Non, oui, c'était pour parler ce matin des Football Leaks, donc sont ces fuites, ces données qui ont été rendues publiques il y a quelques jours, issues d'une enquête qui a été menée pendant 7 mois par 12 médias européens, dont Mediapart en France, et qui a été pilotée par le Spiegel en Allemagne. Plus de 18 millions de documents qui ont été fournis au Spiegel. C'est plus que les Panama Papers, qui étaient 11,5 millions de documents. Et voilà, donc on a appris à cette occasion-là que les joueurs, et sinon les joueurs en tout cas, les agents de joueurs organisaient largement... on va dire à minima l'optimisation fiscale de leur poulain, et sinon un peu plus, et on est en ligne.
18 millions de documents, il y a des gens pour lire ça ?
Oui, voilà, absolument, c'est 1900 gigaoctets de données, voilà, mais aujourd'hui bon. on sait traiter petit à petit. Voilà.
Vous êtes en ligne avec, on est en ligne avec qui ?
Avec Nicolas Ksismartov, qui est journaliste au magazine SoFoot, et qui est rédacteur du blog Never Trust Marxist in Football. Bonjour Nicolas Ksismartov.
Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous allez pouvoir nous éclairer. Alors pour vous, en fait, ces données-là, ce qui est en train de sortir petit à petit en feuilleton dans la presse, qui fait un petit peu de bruit, mais finalement pas tant que ça, pour vous, c'est simplement le fait que le football, c'est un sport dans son époque ?
Bah, c'est un sport dans un système économique et dans... Moi, je suis financier de ce qu'est le capitalisme mondial aujourd'hui. Donc, en fait, c'est pas une révélation en soi, parce que je rappelle quand même que régulièrement, il y a des affaires de fraude fiscale qui sortent, que Messi était déjà lui-même confronté à la justice espagnole depuis quelques temps à ce propos. Donc ce qui est vraiment neuf, c'est l'ampleur en fait, de la documentation qui permet d'étayer les choses. Mais il faut bien faire attention que dans le cas du football, contrairement au Panama Papers, plus qu'un système généralisé, on voit des cas particuliers à chaque fois qui émergent. Par exemple, la situation de Ronaldo, qui a beaucoup fait parler, est très différente de celle de Pogba, qui apparemment a plutôt été escroqué par son premier agent, tandis que le suivant essayait de récupérer les sous pour son compte. Enfin, donc c'est à chaque fois des configurations très singulières. Mais oui, les footballeurs professionnels, en tout cas pour le haut du gratin, touchent des formes de revenus qui s'apparentent à celles des cadres des grandes multinationales, c'est-à-dire qu'ils ont des salaires fixes qui ne sont pas l'essentiel de leur argent. et après des primes, que ce soit en droit à l'image, etc., qu'ils ont toujours la tentation, en tout cas leur agent, puisqu'ils ne sont plus simplement des personnalités qui les placent dans les clubs, de décimer ou tout du moins de mettre dans des lieux où ils ne seraient pas entièrement fonctionnés comme à domicile. Il faut encore, et la deuxième point qui est important, c'est bien faire la différence entre ce qui serait illégal et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a une éthique, on peut considérer que c'est immoral de placer son argent à l'étranger dans des paradis fiscaux, qui parfois sont en Europe, et ce qui est, qui peut faire motif à des poursuites judiciaires, qui sont deux choses très différentes.
Nicolas Xismartoff, est-ce que c'est simplement de la fraude fiscale d'un type qui, gagnant trop d'argent, se dit qu'il lui faut encore plus, qui est une maladie courante, ou est-ce que c'est un vrai système qui est organisé par le monde du foot?
C'est les deux, en fait. D'abord, c'est des gens jusqu'à preuve de savoir s'ils sont au courant de tout ce que font leurs agents. Et c'est un système parce que fondamentalement, aujourd'hui, les plus gros joueurs sont tenus par quelques écuries d'agents, par quelques groupes d'agents, qui apparemment ont tous mis en place ce système pour tout le monde, pour être sûr que ce qui relève du droit à l'image essentiellement, donc des formes de revenus qui sont payées directement par Adidas, etc., pour le cas notamment de Chon Gonzalez, qui était un joueur de Marseille, pour que ces formes d'argent ne soient pas sous le regard des fiscalités européennes qui sont quand même toujours, même s'il y a des variables, un peu plus redistributives que ce qui peut exister ailleurs.
D'accord.
Donc on est entre les deux parce que je pense que tous ne le font pas. Apparemment, par exemple, Benzema, qui est un agent de joueur également, Benzema avait une société de droit à l'image qui est basée en France, donc imposée à 33% comme tout le monde. Donc c'est vraiment, on est entre les deux. Le football fait beaucoup parler parce que le football est populaire, exposé, qu'effectivement les gens connaissent mieux le nom des footballeurs que des responsables de Société Générale qui planquaient leur pognon dans le cadre des Panama Papers.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on rendrait service aux footballeurs, peut-être en les éloignant de la tentation, en les payant moins? Est-ce que ça serait une façon de les ramener peut-être vers une morale publique et un rapport à l'argent plus sain? Est-ce que c'est un service à leur rendre?
Le problème, c'est comment on les paierait moins? Parce que là,
j'ai des idées.
Non, mais attendez, la question n'est pas les salaires. Ce n'est pas le fameux salary cap qui existe aux États-Unis, c'est qu'ils sont payés. Là, on parle des sommes d'argent qui sont payées par des sponsors, etc., pour des droits à l'image. C'est très compliqué de mettre des barrières là. Je pense que dans ce cas, il faut bien qu'on évoque le cas des très hauts salaires et de leur plafonnement, qui est une idée qui revient régulièrement dans le débat économique porté par des gens comme Piketty. Ça serait très compliqué parce que ça supposerait d'abord une harmonisation européenne.
Bien sûr.
Ça supposerait que les États, et c'est quand même eux qui sont en question, cessent leur profonde indulgence envers les systèmes de paradis fiscaux, qui existe notamment, je rappelle, en Europe, Monaco, c'est quand même pas très loin, et que par ailleurs, un dernier point, c'est qu'on établisse des véritables sanctions pour les fraudeurs. Je rappelle, et ça c'est comme à signaler, que dans notre beau pays, c'est Bercy qui a la main sur les questions d'évasion fiscale par rapport à la justice. C'est un peu comme si c'était la santé qui décidait à la place de la police qu'il faut poursuivre ou s'il vaut mieux leur ponctionner un peu d'argent.
Bien sûr, Nicolas, je lançais ça en l'air, non pas comme une démagogie supplémentaire, mais comme une sorte de porte qui s'ouvrait. Une dernière question de Thomas Baumgartner.
Oui, je suis aussi pour les acteurs.
Vous savez, les acteurs, ça n'a rien... Alors, je vais vous dire une chose, le mec qui vend sa boutique. Non, ça n'a rien à voir. Et là, j'aimerais bien être payé comme un footballeur, pourtant je joue bien.
C'est quand même... on plafonnerait les salaires dans le monde du cinéma, la salle du César serait à moitié vide. Mais je pense que c'est un problème plus général. Le football révèle quelque chose qui est plus général dans notre société, c'est presque du niveau de la culture de classe. Il y a des gens qui gagnent extrêmement bien leur argent et qui considèrent les systèmes redistributifs comme des injustices ou des problèmes.
Mais simplement, ce qui choque les gens, c'est qu'on se dit qu'à un certain niveau d'argent, on est toujours étonné que ça ne suffise pas aux gens. C'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais je le pense vraiment.
Nicolas,
les gens sont riches parce que justement, ils ont cette manière de raisonner. On parle d'enrichissement personnel, on ne parle même pas d'enrichissement économique comme ça des sociétés ou des banques.
Oui, on parle de personnes privées.
D'accord. D'ailleurs, vous dites, Nicolas Xismartoff, que les footballeurs sont des riches sans puissance. Ça veut dire quoi?
C'est un peu. Enfin, là, je dis ça souvent. C'est comme disait Escobar. Escobar disait, je suis pas un riche, je suis un pauvre qui a de l'argent. C'est un peu ça. Ça fait des gens qui gagnent énormément de revenus, qui sont très exposés immédiatement, qui peuvent même monter, comme j'ai dit, à des formes de rémunération équivalente au grand patron, mais ils n'ont pas de relais, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas d'impact sur la vie politique dans leur pays. C'est quand même pas la même chose d'être à la tête d'une grande banque en France et d'aller dîner avec Macron ou n'importe quel ministre de l'économie que de s'appeler Benzema ou Valbuena, etc., parce qu'on n'a pas simplement, on n'est pas écouté de la même manière. De temps en temps, on va poser à côté de vous quand on veut faire une belle photo après un bon parcours à l'euro, mais le reste du temps, ils n'ont pas les capacités d'influer sur la politique ou sur la vie économique de leur pays. Ils sont juste des gens qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont dans un système d'entertainment et dans un sport mondialisé qui leur permettent effectivement d'avoir de grosses redistributions, mais leur capacité de modifier, comme le font aujourd'hui nos amis des banques, la vie et les réglementations, même légales, elles feront le zéro absolu. Donc voilà, c'est des riches en puissance, c'est pour ça que c'est souvent eux qu'on montre du doigt.
Bon, ben, merci Nicolas, merci, on continuera de les plaindre, de les soutenir et de ne pas leur en vouloir.
Si.
Et puis ce truc cinéma contre football, je trouve que vous avez la matinée très désagréable, Nicolas. Je vous propose d'aller prendre un café, mais je vous embrasse quand même.
Moi aussi.
Salut.
Au revoir.
Salut. Le grand invité de 7h24, François Rollin, à l'écoute de la société, de la contemporanéité. François, vous êtes vraiment un observateur au premier plan. Vous avez entendu des métiers stigmatisés, des histoires fortes, l'argent, le métier, l'art.
Et tout ça ne m'a pas fait oublier ce que j'ai entendu auparavant, 8,49€ le kilo de saumon fumé.
Alors, vous avez entendu cette information quand et où, François ?
Alors, sur Radio Nova, qui est une des principales radios françaises, oui. Une des plus grosses audiences.
Un lieu de pouvoir.
Et dans ce qu'on appelle une page de publicité, un annonceur dont malheureusement j'ai oublié le nom exact, mais peut-être ça nous sera rappelé par nos collaborateurs, a bien précisé qu'actuellement, pour 8,49€, vous pouvez avoir un kilo de saumon fumé.
Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait pour les auditeurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un kilo de saumon fumé ? Combien de convives faut-il réunir pour arriver au bout d'un kilo de saumon fumé ?
Par exemple, c'est-à-dire, j'ai envie de vous répondre deux choses, parce qu'à la fois, je serais tenté de vous répondre poisson, fumage, bois de hêtre et tout ça.
Non.
Et en même temps, j'ai envie de vous répondre Noël, plaisir, convivialité, c'est générosité, ça. Partage.
Alors, le Père Noël, lorsqu'il a mangé du saumon fumé, n'a pas la même haleine que lorsqu'il a mangé une bûche au marron. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ?
Il faut laisser le Père Noël libre de se goinfrer et de s'empiffrer, comme il le fait d'ailleurs assez bien chaque année. Vous voyez que sa bedaine est tout de même bien rebondie. Comment fait-il ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'il mange des pousses de soja ? Non, évidemment, c'est plat en sauce et compagnie.
Plat en sauce, bien sûr. Alors très certainement, c'est quelqu'un qui... je parle du Père Noël, dans la mesure où il n'y en aurait qu'un, ce qui me paraît étonnant vu les milliards d'enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a simplement une brosse à dents qu'il apporte dans sa tournée Noël.
Ah,
on ne sait pas.
Pourquoi pas, on ne sait pas. Ben ça, alors là, rien ne vous interdit de diligenter une enquête.
Je vais aller chercher une somme d'argent, essayer de la placer dans un paradis fiscal. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Ah, il fait une chaleur dans cette émission. Yeah.
I pay my dues with effort. I still lose counting my blessings. Sold dabs at my gigs, pain is the essence. Now I'm making hits, taking them hits made me a weapon. I never had a pot to piss in. Now I piss in a pot of gold and watch it glisten. In a race of my own race, that's not the mission. That's why I'd rather link Western than Copper Smith. And every time my top was missing, I went missing. Came back and left the old me, my friends miss him. How am I gonna stay the same, trying to make a difference, trying to make a living, then make a killing and live killing shit. I mind my business, cause my mind's where my business is. Kick that business, study my businesses. It's kinda crucial what Miss Simmons did. I got away with words, cause I'm a lyricist. Mama needs a new stove, so I do stove. Could've got sectioned, I had to do road. And now I got some new dough off a new flow. Couple diamonds, I can kill one bird with two stones.
I used to wake up in the AM, cold showers while I hear my nana praying. Amen, counting money, watching Boondocks. Then I put it in my shoebox, still trying to put my crew on. Ring the alarm, ring the alarm. Everybody run when the popo come. All I see is a smoking gun.
How am I gonna sign a deal with ya, even deal with ya? If you don't deal with me properly, what's the deal with ya? I was taught to be real with ya, so I'm real with ya. Though I'm in Tommy Hilfiger, still a real nigga. Yeah, my plan A was my plan B. I only plan my A levels for my family. And now I'm with a bad bitch and some bad breed youths. Even though I can't change them, I can teach. The things we used to do, four figures. Now I do a one show and that's a new four figures. I can go forever and a few more minutes. I'm just trying to paint pictures. I don't do this for the image. I do this for the broke niggas. Yeah, not to lose a little hope. And it's over, there's some joke niggas. I don't dodge my old women.
C'est nos amis rappeurs anglais, ça, Edouard, Tixda Author et Avelino avec Ring the Alarm.
C'est exactement ce dont vous parlez. Il est 7h31. Voici Thierry Paré.
Radio Nova.
12 jours et 3, près de 3 millions de bulletins de vote recomptés plus tard, le républicain Donald Trump est toujours donné vainqueur à la présidentielle américaine dans le Wisconsin. La marge d'avance même du milliardaire sur sa rivale Clinton s'est creusée de plus d'une centaine de voix. C'est-à-dire, il dépasse de 22 000 votes au total dans cet état du nord des États-Unis, Hillary Clinton.
Il va être élu, Trump ? J'ai pas compris.
Il va être élu, il est en passe d'être élu.
Trump ne va pas être président des États-Unis. Allons.
C'est possible.
Reprenez-vous, Thierry Paré.
On va voir, on va peut-être le confirmer dans le courant de la matinée.
D'accord.
Alep est en train de tomber aux mains du régime syrien. Et ça aussi, ça va être confirmé dans le courant de la journée sans doute. Voilà. Les forces gouvernementales syriennes ont annoncé avoir pris le contrôle de la quasi-totalité de la partie est d'Alep en tout cas. Cécile Duflot, Hervé Mariton, Patrick Menucci qui comptaient se rendre à Alep en Syrie n'auront finalement pas été plus loin que la frontière turco-syrienne, ce qui est déjà pas mal. Les trois parlementaires français entendaient raccompagner le plus loin possible le maire d'Alep qui était en visite en France ces derniers jours. Les autorités turques ont prétexté de la présence de bombes au chlore pour refouler les parlementaires. Je ne suis pas là pour éteindre la lumière. Dixit Bernard Cazeneuve, le Premier ministre doit prononcer cet après-midi son discours de politique générale. Bien qu'il ne reste que 5 mois de mandat, Bernard Cazeneuve a prévenu il n'a pas l'intention de se limiter à un rôle de gestionnaire. Les socialistes vont se choisir un nouveau patron à l'Assemblée nationale. Ils vont voter ce matin pour désigner le successeur de Bruno Le Roux à la tête du groupe socialiste, écologiste et républicain. Ce dernier a quitté ce poste après sa nomination comme ministre de l'Intérieur. François Fillon ne veut pas privatiser la sécurité sociale. Le candidat LR à la présidentielle s'exprime dans une tribune au Figaro. Il répond aux critiques sur son programme. Manuel Valls est-il en capacité d'incarner le sursaut souhaité par François Hollande ? Oui, répond Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale a décidé de soutenir l'ancien Premier ministre pour la primaire du PS. La menace de coupure d'électricité cet hiver s'éloigne. 7 réacteurs parmi les 8 actuellement à l'arrêt pour des contrôles sur leurs générateurs de vapeur pourront redémarrer d'ici la fin du mois de décembre. C'est confirmé. Le coup d'envoi des 8e de finale de la Coupe de la Ligue de football ce soir. Marseille est attendu à Sochaux. Nantes reçoit Montpellier. Les autres rencontres auront lieu demain. Et puis, malgré les récentes révélations des Football Leaks dont on parlait à l'instant, vaste système d'évasion fiscale, Cristiano Ronaldo a été sacré Ballon d'Or hier soir.
Ça m'a énervé le débat tout
à l'heure. Ça t'a agacé ?
Ah oui, parce que quand on demande à un journaliste un truc précis, toi, on ne sait pas pourquoi il se dit. De toute façon, c'est normal parce qu'ils sont tous pourris aussi dans les autres métiers. C'est pas une réponse et je ne crois pas que du tout que tout le monde soit pourri. J'ai pas cette vision des choses.
C'est pas de ma faute.
Si, je sais pas. Je ne sais pas. Va voir, va savoir.
C'est la quatrième fois que Cristiano Ronaldo a eu le Ballon d'Or.
Ils s'en foutent tous plein les fouilles, les footballeurs, les acteurs, les journalistes, les plombiers.
Le joueur portugais devance l'Argentin Messi et le Français Griezmann, ce qui fait plaisir à Atman, je crois.
Oui.
Atman, tout vous fait plaisir parce que vous êtes une très bonne nature.
Oui, moi je suis à la fois, je suis pas du tout gringeux, je suis joyeux dès le matin.
Oui,
j'aime
c'est ça.
Tout. J'aime
dans
la
les sept nains, vous seriez joyeux.
Joyeux, je serais aussi.
Et Christophe, vous seriez Cendrillon.
Non, je serais simple.
Simple. Et, non, c'est Blanche-Neige, j'embrouille Cendrillon.
Non,
François, vous qui avez écrit un livre sur les contes de fées.
Prof.
Oui, mais comment vous arrivez à vous distinguer Blanche-Neige de Cendrillon?
Blanche-Neige est bien plus sexy, plus glamour. Cendrillon,
pas du tout.
Elle sent quand même un peu la poussière.
Non.
Quoi?
Je préfère, viens
le dire là.
Je préfère largement, pardon.
On part dans la rue à Jacques Souvoy.
Vous êtes plus grincheux, moi. Plus grincheux pour moi.
Ce matin. Jacques Souvent est parti avec son micro dans la rue. Allez parler, allez écouter. Vous en êtes où, cher Jacques? Bonjour.
Bonjour, bah alors moi c'est plutôt ville verticale ici là, je suis sur l'esplanade de la Défense.
Ah oui,
et
battu par les vents.
Oui c'est ça, c'est un peu une plaine urbaine, mais je dois dire que ce qui frappe ici c'est la lumière. Hein. C'est, les enseignes publicitaires en haut des tours sont très très forts et du coup les humains qui sortent de la terre là sont en contre-jour, ça veut dire qu'on voit que des petites silhouettes qui circulent à vive allure. Et apparemment, ici, on veut nous parler de l'espace et du temps, parce que il y a des pancartes qui me disent où je suis, et des pancartes qui me disent où je vais. Il y a un petit panneau qui me dit que je suis à 7 351 835 mètres du Mont Everest. Mmh. Enfin bon, des choses comme ça.
Ça vous situe, ça vous ressente, ça vous
chatouille? Ouais, je sais pas ce que ça me fait. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a le, dans l'immeuble Areva, là, il y a une petite lumière qui, il y a un petit néon qui grésille là.
Allez vers l'humain, Jacques. Allez au contact.
Ouais. J'essaie. On me dit qu'il n'y a pas le temps ici. Alors, en même temps, il y a un centre commercial qui s'appelle les 4 temps. Je ne sais pas. Bonjour, madame. Alors là, je l'ai effrayée carrément. Elle est partie.
Ils ont des montres, mais ils n'ont jamais le temps. C'est ça.
Non, ici, on circule à vive allure. Hein. Il y a de l'espace. Alors, la cadence est rapide. Je vais faire une tentative.
Est-ce qu'on est dans le cadre de gens qui vont quelque part?
Oui, mais j'aimerais bien rentrer juste dans mon bureau.
Bah oui.
Oui, elle aimerait bien rentrer.
Qui n'en a pas envie? Qui n'en a pas envie ?
Dans son bureau.
Souhaite-t-elle en sortir un jour ou pour y rester définitivement ?
Je ne sais pas. Et alors, au centre de cette esplanade, il y a un petit village de nains. Je ne sais pas, c'est un,
qu'est-ce qu'il
un
vous
jardin
prend ?
Noël. Ah, je suis abordé.
Ah.
Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un micro ?
Elle va se faire casser.
C'est un micro ? Pourquoi ? C'est un test ? Oui, c'est un test. Alors, un test de QI.
Un test de QI ?
Oui.
Ben, à mon QI, tu sais où est mon QI ? Il est dans l'espace.
Ah. À quel niveau ?
Va chercher dans l'espace.
Au niveau de la grue, là-haut ?
Dans l'espace.
Intersidéral.
Intercontinental.
Intercontinental. Voilà, bon, ça, c'est une petite conversation.
C'est la fameuse rubrique Voix du matin, voix à jeun.
Oui. Je passe devant chez l'Auvergnat. Donc voilà, il va se passer des choses ici, Edouard,
oui.
Je crois.
Ça commence bien, oui.
Je crois que ça commence bien.
Je suis content.
Une autre tentative. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous rendez où, là ?
Là, c'est près de le métro, non, les RER.
Ah, c'est juste en dessous. En dessous, l'escalier de l'autre côté. Voilà. Ah, je fais une petite dernière, Edouard, parce que...
Moi, j'ai bien aimé.
Bonjour, madame.
Hein.
Ah non, on me repousse le micro. Ici, ça va être sympa, je sens.
Ça va être intéressant. Hein. Restez à la défense.
Je sens que ça va être intéressant.
À tout de suite, Jack. Il y a Charlène qui l'a...
Oui, me laissez pas trop longtemps.
Non, mais restez restez sur GPS. N'hésitez pas à nous rappeler dès qu'il y a du... Charlène qui souvent le matin nous prépare des sons, des montages. Là, vous avez écrit un petit texte, Charlène. Vous êtes d'une petite humeur poétique, vous m'avez dit « Voilà un cri d'amour d'une minute et des poussières, une ode à tous et à chacun, un hymne à tous les différents, à commencer par toi, à commencer par nous, aux solitaires qui s'ignorent, à ceux qui ont de collectifs compliqués, aux déçus qui espèrent, aux désespérés confiants, un petit son d'une minute et des poussières, dédié à ceux et celles qui ne s'en remettent pas d'avoir toujours 14 ou 15 ans dans leur tête, aux stagiaires d'observation de la vie, qui finiront bien par décrocher le pompon au prochain tour de manège. »
C'est moi qui ai écrit tout ça ?
Oui.
Eh ben...
Alors, on écoute le son qui correspond à cette
phrase. D'accord.
Très bien.
S'il vous plaît, chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson.
Oui, maman. S'il vous plaît, maestro.
Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ?
Moi, j'aime pas les gens bizarres.
Qu'est-ce que t'as dans la tête ?
Chacun a le droit de vivre comme il l'entend.
Tu ne sais que danser.
Je suis un humaniste.
Tu ne sais que condenser.
Peut-être même le dernier humaniste.
Qu'est-ce qu'on va faire ?
Échelé, seul et solitaire.
Qu'est-ce que t'as dans la tête ?
Ça fait beaucoup de solitude.
Tu ne sais que danser.
Volcan !
Tu ne sais que rater ta vie.
Vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas gentil.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
C'est curieux, comme les gens sont méchants.
Qu'est-ce que t'as dans la tête ?
On traite pas les gens comme ça !
Tu ne sais que danser.
Je sais, c'est insoutenable.
Tu ne sais que sortir de chez toi.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme !
C'est aussi simple que ça.
C'est bien ce qu'elle a fait, Charlène, ce matin. A tout de suite, il est
7h39. 7h09, plus près de toi.
Numéro de série se propage à
J.P. Manova qui était venu ici. Hein. Formidable J.P. Manova. Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Edouard Baird.
Dominique Régnier... Vous étiez hier chez... Je n'aime pas quand vous êtes la veille chez Yves Calvi. Moi, j'aime bien que vous veniez en secret, qu'on soit les premiers à avoir vos lumières sur la politique.
Je devais être là lundi matin, vous m'avez décalé au mardi matin.
C'est pas moi, je ne suis pas responsable.
De appeler le directeur.
Mais l'avantage, c'est que plus vous venez tard, plus il y a de candidatures qui se manifestent. Parce que là, depuis quelques jours, on ne comprend plus très bien. Donc, il y a eu à gauche, il y a eu Vincent Payon. À droite, il y a Michel Alliot-Marie. Est-ce que c'est un signe de santé de la démocratie ou est-ce que tout à coup, ça devient n'importe quoi?
C'est quand même au moins le signal que le fait de se présenter à l'élection présidentielle n'impressionne plus beaucoup. Ça a été quand même considéré dans les premières élections comme un geste particulièrement important, compliqué, risqué. La multiplication est le signe qu'il y a manifestement une révision à la baisse de la fonction aussi d'ailleurs. Hein. On se sent capable d'être président, même d'être candidat. On pense qu'on a quelque chose à dire aux Français, aux 46 millions d'électeurs. C'est une des caractéristiques de l'année 2017. Ça ne veut pas dire que ces candidatures seront des candidatures à la fin. Il y aura beaucoup, beaucoup d'éliminés qui ne pourront pas réunir l'argent, réunir les signatures. Ça va être très compliqué. D'autant plus que cette fois-ci, les signatures... Alors, je le dis, c'est un peu technique, mais ça a de l'importance. Il y a une réforme qui a eu lieu... Les élus qui vont parrainer les candidats verront leur nom publié intégralement au fur et à mesure qu'ils soutiendront un candidat, il va y avoir un effet un peu de contrainte. Oui. Les élus vont prendre un risque aussi. Ah,
parce qu'avant, les élus soutenaient un petit peu plusieurs candidats.
Non, ils en soutenaient un, mais la liste était tenue secrète, sauf quelques noms qui étaient tirés au sort par le Conseil constitutionnel. Donc en gros, on pouvait soutenir quelqu'un sans que ce soit très connu. Maintenant, ce sera très connu, donc on aura des comptes à rendre. Ça va être compliqué. Il faut aussi dire que l'année où il y a eu le plus de candidatures, c'est 2002. Il y a eu 16 candidatures retenues, officielles, qui sont allées jusqu'au bout. Et ce grand nombre de candidatures, 16, encore une fois le record en 2002, 16 candidats, a été une des causes de ce second tour fameux entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. La dispersion des voix, évidemment, peut jouer contre les candidats démocratiques ou les candidats modérés, dans la mesure où les candidats protestataires, ils auront leur électorat qui vont leur rester fidèles.
Alors oui, des candidats hors parti, des candidatures étranges ou des candidats de partis un peu extrêmes, on a vu beaucoup. Dominique Régnier, mais vous dites que c'est le rabaissement de l'idée d'être président. Est-ce que c'est pas un peu aussi le contraire? C'est-à-dire que chaque personne, tout à coup, se croit appelée à un grand destin. Est-ce que c'est la fin des leaderships, un peu? Alors, dans les partis? Oui, parce que c'est dans les partis que tout à coup, les partis traditionnels.
Vous avez raison de réénoncer comme ça. Je suis plutôt d'accord d'ailleurs avec la formule que vous venez d'employer. C'est-à-dire que, évidemment, c'est l'idée que la fonction impressionne moins. Ça, c'est quand même très lié. Mais je crois, et ça c'est plus fondamental, et vous venez de le dire de cette façon-là, je crois que l'idée qu'il y a un pouvoir au-dessus incarné par une personne est une idée qui est quand même en contradiction avec l'époque, où on considère que d'une certaine manière, la décision plus horizontale, plus collective, plus partagée, correspond mieux à l'état des intelligences, au niveau d'information qui, quoi qu'on en dise, est très supérieur, à des citoyens qui, quoi que l'on dise, sont très impliqués, même s'ils ne votent pas toujours, très au courant, très au fait, et peuvent avoir le sentiment que choisir un chef pour les conduire, c'est au fond d'une autre époque.
Alors, vous avez l'impression qu'il ferait mieux discuter entre eux et après d'en faire sortir un, qu'ils ont raison d'agir comme ça, ou que ça va faire exploser les partis politiques traditionnels?
C'est aussi le signe de la crise des partis politiques, de ceux qui cartélisent en fait le système démocratique. Hein. Il y a 3-4 partis, parmi lesquels d'ailleurs le Front National, qui tiennent le système démocratique, qui contrôlent les candidatures à tous les niveaux, local, national. La multiplication des candidatures et l'obligation, en tout cas, qu'ont éprouvé le PS et les Républicains d'organiser des primaires, témoignent de leur difficulté à tenir encore le jeu entre leurs mains. De même que la candidature Macron est le signe d'une brèche, d'une fêlure. Et donc la tendance, ce sera plutôt, je pense, maintenant, à la perte de contrôle. Il faudra des mécanismes de régulation. Ou bien, ils peuvent durcir les conditions d'accès à la candidature. C'est une pensée qu'ils ont souvent. Ça rendra encore plus compliqué l'arrivée des outsiders ou de nouveaux entrants pour cartéliser un peu plus le système démocratique.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, Dominique Régnier, que tout à coup, il y a des gens qui disent « Ah ben, si lui y va, il n'y a pas de raison que je n'y aille pas aussi. » Il y a un petit truc, comme ça. Vous-même, par exemple, êtes-vous candidat à l'élection présidentielle?
Je profite de l'occasion que vous me donnez pour le dire. Non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et c'est ce qui va me distinguer de vous.
Ah ben, vous nous donnez un scoop, alors.
C'est un scoop.
Alors, voilà. Dominique Régnier n'est pas candidat à la présidentielle.
Les suites de l'effet aussi Trump, Brexit, Fillon. C'est-à-dire que maintenant, puisque les sondages peuvent se tromper, ben moi, pourquoi pas? A priori, effectivement, je suis crédité de 0,00, mais va savoir. Donc effectivement, ça encourage dans toute une série de cercles, hein, pas seulement en politique, ça encourage toute une série de gens à se dire, oui, mais attends, oh là là, rien n'est jamais joué.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force. Ah, merci, cher Dominique Régnier.
Merci, Norbert.
François Rollin, j'ai l'impression que vous nous présentez, préparez une petite candidature surprise. À tout de suite. On est avec Sacha, celui-là, tu voulais le lire, ce poème-là?
Oui.
Mais tu m'as dit qu'il y en a que tu connaissais par cœur.
Mais non, il y en avait, mais c'était à l'école.
Tu peux m'en dire un de l'école. Moi, je préfère que tu me le dises par cœur. Parce que quand on lit, après, tu sais, on dit moins bien les choses, on va trop vite.
Non, t'en fais pas.
C'est vrai? Je vais pas m'en apercevoir.
Non?
Bon, alors on le dit pas aux gens.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant.
Un enfant. Un poème.
Sacha, tu vas maintenant te dire un poème que tu sais par cœur, qui s'appelle comment?
L'ange pâle.
L'ange pâle. Très bien, nous t'écoutons.
L'ange pâle. À la longue, je suis devenue bien morose. Mon rêve s'est éteint. Mon rire s'est usé. Amour et gloire ont fui comme un parfum de rose. Rien ne fascine plus mon cœur désabusé. Il me reste pourtant un ange de chlorose. Enfant pâle qui veille et cherche à m'apaiser. Sorte de lys humain que la tristesse arrose et qui suspend son âme aux ailes du baiser. Religieux fantôme au charme narcotique. Un fluide de câlin sort de ses doigts mystiques.
Quoi ?
Le rythme de son pas est plein de nonchaloir. La pitié de son geste émeut ma solitude. À toute heure, sa voix infiltreuse d'espoir chuchote un mot tranquille à mon inquiétude.
C'est de qui alors ce poème ?
Maurice Rohina.
Montre-moi, il y a des mots que je n'ai absolument pas compris, Sacha. Qu'est-ce que c'est chlorose ? Qu'est-ce que c'est un ange de chlorose ?
Chlorose, ça veut dire... c'est... Je sais pas comment expliquer. En fait, chlorose, ça veut dire...
un ange de
vieux, enfin... C'est presque mort, c'est...
Juste avant, c'est François, pâle. Vous connaissiez chlorose ?
Non.
C'est dommage, parce que vous connaissez... Un nonchaloir ? Le oui, rythme oui. de son pas est plein de nonchaloir. C'est comme de la nonchalance, c'est quoi ?
C'est de la poésie, déjà.
Puis c'est un vieux poème.
Oui, c'est un bon, vieux poème.
Un vieux, pas si vieux, ça.
Elle a mis plein de silence entre les
Il est mort quand, ce poème ?
Bah, non,
il est encore vivant, ce poème. Mais il y a des mots très étranges. Pourquoi tu as choisi celui-là, ce poème de Maurice Rollina ?
Bah, en fait, j'avais envie de réciter un poème qui parlait d'anges.
Oui.
Alors j'ai cherché, et puis j'en ai lu plein. Et puis j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que c'était le meilleur.
Qu'est-ce que tu aimes bien sur les anges ?
Je sais pas, je trouve que c'est doux, qu'il y a un charme, enfin, je sais pas.
Tu en vois ici ?
Non.
Si, bah si, quand même un peu.
Vous en connaissez, vous, des anges ?
Oui.
Christophe ?
J'en connais un.
Très bien. Bah écoute, non, merci. Puis on va aller regarder dans le dictionnaire chlorose. Et puis on va, avec François Rollin, on va réfléchir à la notion de nonchaloir. Merci, Sacha.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h. Bon, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Alors, ça c'est vrai. Alors, Thierry Paré, vous restez là. Tenez votre journal au chaud parce qu'il est l'heure. Jingle. Les conseils santé de François Rollin. Bonjour François. François, plusieurs fois octogénaire, il l'a été plusieurs fois dans sa vie. Il a toujours bon pied, bon œil. C'est parce qu'il suit lui-même ses propres conseils santé. Prenez vos stylos, vos tablettes, vos enregistreurs. Prenez des notes.
Alors Edouard, certaines personnes ont naturellement le cheveu plat et terne. Mais d'autres, et je crois que c'est votre cas Edouard, doivent consentir des efforts particuliers pour y parvenir. Voici donc quelques conseils. À leur intention. Premièrement, efforcez-vous d'asphyxier en permanence votre cuir chevelu et vos cheveux en portant un chapeau et mieux encore un béret ou une casquette très ajustée qui ont l'avantage à la fois d'aplatir le cheveu et de le priver d'oxygène. Idéalement, vous conserverez votre casquette pendant votre sommeil. Le cheveu n'en sera que mieux écrasé et sec. Deuxièmement, pour un cheveu gras et qui se remarque, parce que certains ont le cheveu gras mais ça ne se voit pas bien.
C'est dommage.
Rien ne vaut l'huile de frite en application quotidienne. L'huile de frite autrefois popularisée par le regretté Claude Jean-Philippe, le monsieur ciné-club d'Antenne 2, mais bien défendue aujourd'hui encore par Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ou Benjamin Biolay. Si vous n'avez pas d'huile de frite sous la main, l'huile de vidange fait très bien l'affaire, mais elle a l'inconvénient de modifier votre coloration naturelle. Troisièmement, bannissez les shampoings revitalisants ou renforçateurs du cheveu et d'une manière générale, tout ce qui est shampoing ou produit lavant. Et si vous avez assez de volonté pour ça, évitez carrément toute espèce de lavage. Ne confiez jamais votre coupe de cheveux à un professionnel. Préférez un copain bourré ou une ex que vous avez méchamment éconduite et qui saura vous massacrer efficacement. Le petit plus de Nova, Edouard, lorsque vous êtes en présence d'un fromage de maroilles ou d'époisse, prenez-le à pleine main, puis passez votre main dans vos cheveux. Effet brillance garanti.
Merci François Rollin. Merci.
Radio Nova.
Comment parler d'Alep après ça ? C'est compliqué.
Alors,
après 4 semaines...
Il faut un petit sas. Non, je comprends. Si je...
Mais
non,
c'est,
non,
mais on c'est, pas, c'est, on c'est pas, l'actu,
non,
c'est comme ça.
Obligé de... Si vous voulez passer par autre chose...
Non, on peut passer par autre chose, effectivement. Oui, vous avez raison. Ouais. Guillaume Bachelet ou Olivier Faure, va falloir se faire à l'un de ces deux noms. L'un des deux va devenir ce matin le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, après le départ de Bruno Le Roux.
Hein, oui, alors ce qui est rassurant dans la vie, c'est qu'on n'est pas tout le temps, dans la conversation de chaque jour, en train d'évoquer le président c'est du vrai. Groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
C'est vrai.
Enfin, à part Christophe Méné.
D'autant qu'ils seront... Bah si, ils vont être là sans doute un petit moment. Il va présenter... voilà, donc je parlais du départ de Bruno Le Roux qui a été nommé
ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous avez entendu le mot Bruno Le Roux pendant des années ? Non. on était tranquille.
Non, pas trop, mais un peu quand même. Quant à Bernard Cazeneuve, il va lui présenter cet après-midi son discours de politique générale dans la même Assemblée nationale. Je ne suis pas là pour éteindre la lumière, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, qui n'a donc pas l'intention de se limiter à un rôle de gestionnaire, bien qu'il ne reste que 5 mois de mandat. François Fillon, en mode déminage, dans une tribune au Figaro, le candidat LR à la présidentielle affirme ne pas vouloir privatiser la sécurité sociale. En fait, le programme de santé de François Fillon inquiète jusque dans son propre camp. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Figaro. 12 jours et près de 3 millions de bulletins de vote recomptés plus tard. Le républicain Donald Trump est toujours donné vainqueur dans la présidentielle américaine dans le Wisconsin. La marge d'avance du milliardaire sur Hillary Clinton s'est même creusée de plus d'une centaine de voix jusqu'à dépasser 22 000 votes au total dans cet état du nord des États-Unis. Après 4 semaines d'une terrible offensive contre les insurgés, les forces du régime de Bachar al-Assad semblent en passe de reprendre le contrôle d'Alep. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est alarmé d'informations faisant état d'atrocités récentes contre des populations civiles dans cette ville. Cécile Duflo, Hervé Mariton, Patrick Menucci, qui comptaient se rendre à Alep en Syrie, n'auront finalement pas été plus loin que la frontière turco-syrienne, ce qui est déjà pas mal. Les 3 parlementaires français entendaient raccompagner le plus loin possible le maire d'Alep, qui était lui en visite en France ces derniers jours. Les autorités turques ont prétexté de la présence de bombes au chlore pour refouler les parlementaires. On parlait de la présidentielle américaine et j'ai oublié de vous dire ceci aussi. Les chefs du Congrès américain ont annoncé le lancement prochain d'une enquête parlementaire sur les interférences russes dans le scrutin. Un juge de Barcelone a annulé une amende de 30 000 euros infligée par les autorités régionales de Catalogne contre Airbnb. Selon le juge en charge de cette affaire, il existe un vide dans la réglementation de ce nouveau phénomène de consommation qui ne peut être réglé par l'imposition d'une sanction.
Le premier journal... Parce qu'en Catalogne, ils n'en peuvent plus. C'est à Barcelone, les gens deviennent dingues.
C'est vrai que
il y a des quartiers où il y a plus de Airbnb, de mecs qui débarquent bourrés que d'habitants.
C'est l'une des régions les plus touristiques d'Espagne, effectivement. Le premier journal télévisé entièrement en langue indigène quechua a commencé à être diffusé au Pérou, pays en proie pendant des siècles à des discriminations à l'égard de cette culture. Alors baptisé Nukanchik, je prononce sans doute très mal, ça veut dire nous en quechua. Le journal est programmé tous les jours entre 5h30 et 6h30. Ça peut paraître
très tôt. Ne mettez pas d'ironie dans les choses, dans les cultures locales, dans les langues que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'Atmen Khalif l'a regardé, le journal en quechua, et vous m'avez dit...
Oui, j'ai sorti ma tante, que j'ai dépliée comme ça, mais si.
C'est dommage d'en arriver là.
Non, mais
sort du journal.
Non, pas du tout. J'ai regardé le journal en quechua, j'ai tout aimé, tout compris. Voilà, j'étais au chaud.
Il est diffusé entre 5h30 et 6h30. Ça peut paraître très tôt, mais en fait, il faut savoir que les Péruviens se lèvent très tôt pour aller bosser. 4 millions de personnes parlent le quechua au Pérou, le double dans toute l'Amérique du Sud. La menace de coupure d'électricité cet hiver qui s'éloigne. 7 réacteurs parmi les 8 actuellement à l'arrêt pour des contrôles sur leurs générateurs de vapeur pourront redémarrer d'ici la fin du mois de décembre, c'est confirmé. Le coup d'envoi des 8e de finale de la Coupe de la Ligue de football ce soir. Marseille est attendu à Sochaux et Nantes reçoit Montpellier. Les autres rencontres auront lieu demain. Et puis malgré les récentes révélations des Football Leaks, Cristiano Ronaldo a été sacré Ballon d'Or hier soir. C'est la 4e fois, pas d'affilée. Le joueur portugais devance l'Argentin Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann.
Merci Thierry. C'est quoi cette crème de châtaigne, Yatmen?
Alors c'est pour parler de la crise. J'ai un ami dans les locaux qui est très timide, qui n'a pas voulu le dire, qui est à la fois metteur en scène et castagnateur. Le castagnateur, c'est quelqu'un qui cultive de la châtaigne et qui fait sa propre pâte à tartiner. Alors pour arrêter avec des pâtes à tartiner au chocolat, la châtaigne est très bonne. Je vous propose de la goûter. Elle est très, on sent
moi,
vraiment
goûté,
bien la châtaigne.
Elle est extraordinaire. Délicieuse.
D'accord.
Alors, je vous passe une petite cuillère comme ça. Allez. Vous allez adorer. C'est alors, le petit voilà. Côté cuisine.
On va partir retrouver
la châtaigne. La châtaigne. On le corse, on aime la châtaigne. Vas-y.
Monsieur Fini, oui. Jacques, vous êtes toujours à l'esplanade. Ce matin, vous étiez à l'esplanade de la Défense, là où beaucoup de gens travaillent dans ces grandes tours, dans ces grands bureaux. Où en êtes-vous? Ah, évidemment, là, pour le moment, on ne peut pas dire quoi.
Je ne sais pas s'ils travaillent. En tout cas, tous ces petits. Ces petites lumières allumées n'offrent comme ombre et comme vision que des armoires, pour l'instant pas d'humain derrière les vitres. Et alors je suis vraiment content d'avoir trouvé ce monsieur qu'on s'est pas présenté encore, parce que j'ai croisé à peu près, je sais pas moi, une centaine de personnes qui n'avaient pas une minute à elles. Et donc ça doit être un...
La minute de quelqu'un d'autre peut-être, une minute.
Ça doit être un problème urbanistique, parce qu'ici c'est tellement grand, les tours sont tellement vertigineuses qu'on trace quoi. On ne s'arrête pas, on ne regarde pas l'autre, on est pressé, on a le regard hagard, c'est bizarre. Alors monsieur, je suis content de vous avoir vous êtes arrêté.
Moi, je suis bien content aussi, c'est ça.
Vous m'avez dit, moi j'ai le temps.
Bien sûr, j'ai le temps. Ça fait partie de ma vie, il ne faut pas aller vite, ça ne sert à rien. Si on n'arrête pas aujourd'hui, on continue demain.
Ah oui.
C'est normal, pourquoi il faut aller vite? Il faut se renseigner, il faut demander des gens.
On s'est renseigné parce que le monsieur cherchait plus tôt.
Oui, c'est bien ça. Et le monsieur, ça a bien tombé, vous m'avez bien orienté.
Ah oui.
Enfin, en même temps, monsieur, vous avez bien orienté. Non, parce que vous n'y êtes toujours pas, plutôt. Donc, Jackie, il faut s'en méfier de Jacques, souvent.
Alors... Non, dans 5 minutes, je serai plutôt à mon boulot. Mais, soi-disant, il ne faut pas aller trop... Même si je ne me retrouve pas, je prends mon temps, je fais ma pause.
Vous avez raison. Ouais, faites un petit bout de chemin tous les deux, une clope.
Pas de souci, même un café, je peux lui offrir un café.
C'est ce qu'on fait. Jack, il faut que je vous dise, c'est François Rollin qui vous parle, Jack,
oui,
je suis très sensible à votre reportage parce que moi j'ai eu le privilège, que je suis le seul dans ce studio à avoir eu, de connaître le quartier de la Défense quand ce n'était encore que des quartiers de Puteaux et de Courbevoie, avant le premier immeuble. Et donc j'ai en mémoire à la fois l'image moderne que je connais, celle où vous vous trouvez, et l'image de ce vieux quartier avec des vieilles maisons délabrées. Et ben ça nous rajeunit pas, ça,
merci
mon petit Édouard.
Merci de votre
Loire,
témoignage, hein. Et vous avez bien fait, François, d'intervenir.
Mais merci d'avoir pris un petit peu de temps, François Rollin, avec moi.
Mais oui, c'est vraiment gentil. C'est pas Monsieur Vaou, qu'est-ce que vous allez faire à Puteaux, monsieur?
Moi, je vais commencer un chantier là-bas dans un bâtiment.
D'accord.
Comme vous avez dit que tout à l'heure, avant c'était pas pareil. Maintenant, il y a plein de tours, tout ça, on se perd à notre âge. À 56 ans, bah, je vois plutôt la Défense. Et d'habitude, c'était pas comme ça. Je me repérais par rapport à une grue. J'allais directement. Maintenant, il y a beaucoup d'immeubles autour de moi et je perds le repère. Hier, j'ai travaillé là-bas. Aujourd'hui, je m'en sors pas. Pour revenir travailler.
Parce que vous avez connu le quartier en chantier avec toutes les grues, les immeubles qui poussaient comme des champignons.
Moi, je suis parti partout, à droite et à gauche, je vois que des grues, mais je n'ai pas encore repéré là où je travaille.
Quel est votre meilleur souvenir de chantier, monsieur? C'est quand? C'est où?
C'était vers Puteaux, il y avait deux grues, et c'est ça.
Et qu'est-ce qu'il y avait eu de bien cette fois-là?
C'est un chantier du big bâtiment. Hier, quand je suis sorti du chantier, j'ai repéré les deux grues, maintenant je me retrouve. Je vois que des grues autour de moi, des bâtiments.
Et aujourd'hui, là, c'est un nouveau chantier, donc vous allez commencer par quoi? Par péter des trucs, là, ça va casser d'abord?
Moi, je suis casseur de béton.
Ah, allez-y, allez-y,
je casse les immeubles.
Allez-y à fond, monsieur, foutez-moi des coups là-dedans. Allez-y,
vous allez... Je vous le jure, mon métier, c'est le coupeur de béton.
Il y a plein de gens qui aimeraient bien péter du béton, vous savez, le matin, ça met de bonne humeur.
Ouais, quand on est en ma vie, c'est le béton. Moi, devant moi, c'est le béton.
Est-ce que vous arrivez à faire passer de la colère en tapant sur du béton comme un mec qui taperait sur un sac de boxe?
Ça sert à rien de casser encore, reconstruire. Il faut donner aux gens qu'ils n'ont pas. Mais nous, on n'arrête pas de casser les immeubles qui sont tout neufs.
Est-ce que je peux venir taper avec vous un petit peu?
Il n'y a pas de souci.
Allez, c'est parti. Allez casser du béton avec monsieur. On vous retrouve tout à l'heure. Salut les gars.
7h-9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
On est dans les coulisses de l'émission, là, juste avant la musique. Donc Marie Missé est en train de s'installer là, parce que tout à l'heure, vous aurez sa géniale revue de presse. Je sors du studio, il y a une conversation entre Thierry Paré et François Rollin. De quoi ça parle, là?
Donc du coup, la Défense, moi j'ai grandi à la Défense.
Rien de bien intéressant à voir. Charlène qui écoute, il y a Gus Kervern qui vient d'arriver, qui est en train de lire L'Équipe ou Le Parisien?
Le Parisien, l'histoire Paul Naref qui me passionne depuis le début. Enfin, je suis branché sur l'actu. Hein. Donc,
à ton avis, Paul Naref, truandage ou...
Il était au bar.
Il était au bistrot, oui. J'ai l'impression que tu vois beaucoup de gens, tu les imagines plus au bar qu'ailleurs, non?
Je ne sais pas, c'est une déformation professionnelle, j'imagine. Mais non. Mais, et puis, il y a l'affaire El Kabbaj aussi. En fait,
il y a du lourd. Tu vas venir en parler dans 5 minutes. Donc là, ce qu'on va faire, parce que je me suis aperçu pour les pics d'audience, il faut envoyer un morceau à 8h quoi, Armel?
14
à 8h14, c'est un tout petit peu de musique, vous allez voir, on sera tous gagnants. À tout de suite.
Depuis hier soir, dans le studio de plus près de toi, c'est la veillée flamenco. Un grand feu de bois, Christophe et Atmen qui dansent torse nu, des bouteilles à la main. Marie Missé qui secoue sa chevelure ondulante et en détente. Des chiens, des vaches, des taureaux, une poule isolée couverte de bijoux par un inconscient s'est rapprochée. Une broche tourne, une viande d'origine inconnue, certifiée roumaine, est en train de tourner elle aussi. On joue à la pétanque, on joue au domino, on joue à se faire peur. C'est la grande veillée. La veillée plus près de toi à 8h17. Le jour qui s'est levé estompe les remugles de la fête. Tiens! Marie Missé, la fille préférée du chef, a sorti ses notes. Elle va travailler.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaille pas, qu'elle fait que lire au journal? La revue de presse de Marie?
Missé.
Arrive, bonjour.
Bonjour.
Je sais pas.
Il était bien, mais on ne sait pas de quel pays.
Tiens, Gus, venez écouter de l'intérieur du studio parce que vous vous ennuyez à lire des nouvelles sur Polnareff. Venez écouter le journal de. Ah ben, il y a déjà eu sur le jingle.
Hola.
Salut Gus. Assieds-toi là, tu écoutes.
Vous me dites.
On remet le jingle, c'est plus gentil.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonsoir, bonjour Eugénie, bonsoir. Armel, Edouard Gus, donc, Richard Men, bonjour la France. Bonsoir. On joue avec la peur. C'est toi qui viens de le dire, c'est vous qui venez de le dire. Edouard, les primaires à gauche approchent, les présidentielles aussi. Il est donc grand temps pour moi de faire comme tout le monde et de vous parler de sécurité. Libération interroge le philosophe Michael Fossel à propos de la prolongation de l'état d'urgence. Celui-ci estime que la banalité sécuritaire est portée avant tout par un discrédit du politique. En gros, on promet la sécurité quand on n'a plus rien à offrir, ni sur le partage des richesses, ni sur le progrès, ni sur les libertés. Pour Michael Fossel, donc, on promet la sécurité quand on n'arrive plus à transmettre l'espoir. Et ça se distille un petit peu partout. On parle de sécurité alimentaire, de principes de précaution. Le monde entier est présenté comme un risque, ce qu'il a toujours été, soit dit en passant, mais on en faisait moins avant. Plus grave, continue le philosophe dans Libé, l'État promet la sécurité à longueur de discours, mais ne l'assure pas. Ce sont de plus en plus souvent des sociétés privées qui en sont chargées. Et d'ailleurs, dans Society, les agents de sécurité s'épanchent, ils n'en peuvent plus de l'état d'urgence. Ils sont en burn-out collectif. De toute façon, dit l'un d'entre eux, si un mec arrive avec sa calache, c'est pas moi qui vais l'arrêter. Et un autre...
Vous l'avez bien imité, vous connaissez bien le monde de la sécurité,
j'ai dit calache. Oui. Parce que je pense qu'ils ont écrit Kalachnikov dans l'article, mais je pense qu'il a dit Kalach. Ouais. Oui. Un autre de renchérir, on va pas se mentir, lors des contrôles, on fait semblant. De toute façon, ils ont pas vraiment le matos pour agir dans un univers hyper concurrentiel. Les clients choisissent toujours la proposition la moins chère, celle sans talkie-walkie. Dans le canard enchaîné de la semaine dernière, même un commissaire divisionnaire en avait marre de l'état d'urgence. Il témoignait, l'état d'urgence, au début c'était rigolo, on allait jusqu'à emmerder les droits co qui n'avaient rien à voir avec les terreaux, mais depuis on s'est lassé. Hein, c'est pas le seul, dit le canard enchaîné. La sécurité, c'est aussi ce que Barack Obama avait promis à ses troupes. No boots on the ground, pas de soldats à terre, plus de soldats qui commandent des drones. Society va à la rencontre de deux soldats qui ont piloté ces drones ces dernières années. Ils ne se sont pas mis en danger, mais souffrent de graves stress post-traumatiques, pas aussi indemnes que l'administration Obama l'aurait voulu. Depuis, ils dénoncent cette guerre soi-disant propre. Sian Westmoreland explique par exemple que le déclic lui est venu le jour où on lui a donné une médaille. La raison, écrite avec... plus de 200 ennemis tués en 2400 missions. Une terreur s'installe chez lui. Tout cela est donc réel. Le soir, il raconte « Ma petite amie m'a demandé ce qui se passait. J'ai juste répondu que j'avais reçu un bout de papier expliquant que j'avais tué tous ces gens. Depuis, il rêve qu'il tue des enfants. » Tout le temps. Un article à lire dans Society. Donc. Et puis,
oui,
si vous avez le magazine
tarde,
à la main...
Vraiment, ça va, je sais pas comment je vais faire pour tenir jusqu'à...
Et bah, ce que vous devriez faire, Edouard, c'est ensuite aller vous faire plaisir avec l'article sur Melania Trump. Society s'est rendue dans sa ville natale en Slovénie, à Sevnica, où l'on sert maintenant des tiramisu Melania Trump, des burgers Donald Trump avec une couche de fromage dessus pour faire comme ses cheveux, et où on espère surtout relancer le tourisme grâce à Melania. Le maire le dit bien... Ici, on a surtout de l'industrie, mais on voudrait doper le touriste. Jusqu'ici, nous avons pu compter deux fois sur le championnat du monde de pêche. Mais avec cette élection, nous devrions voir affluer encore plus de touristes. Mention spéciale au journaliste qui a dû sourire en écrivant la phrase suivante. La dernière fois que l'on a vu autant de journalistes à Sevnica, c'était dans 2008 pour la mort tragique de l'ancien maire et la quasi-totalité du conseil municipal dans un accident de canoë-kayak. Comme quoi, on est en sécurité nulle part.
Merci Marie Misset. Gustave Kervern, vous avez été un des proches de Melania Trump avant qu'elle ne rencontre Donald. Vous faites le portrait d'une femme très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, une paysanne simple qui allait aux champignons.
Vous l'avez dit, c'est encore une perversion du système médiatique. Hein, oui. Une fois de plus, voilà, on la présente comme quasiment une prostituée, ouais, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent.
Vous me disiez surtout cette vision que vous aviez un peu champêtre. Ces champignons, cette vache qu'elle aimait traire, cette enfance très protégée dans ce village slovène.
Exactement, oui. Bah, elle a été proche de la nature depuis le début. Elle est des champignons, elle a toujours eu des champignons.
Et vous-même, Gustave Kervern, calmez-vous. Je vous demanderai, attention mon vieux.
Alors, état d'urgence, Gustave Kervern, je voudrais qu'on assure une excellente promotion à votre film Cigarette et chocolat chaud réalisé par Sophie Rennes, dans lequel vous jouez Camille Cotin.
Merci.
Vous
me
disiez, j'aime faire la promotion, j'aime vendre, je vais vous enfourguer de ce film.
C'est exactement ce que je me disais avant de rentrer dans le studio. Je me dis, mais pourquoi, non, mais pourquoi briser une aussi belle tablée par une promotion
Mais non, mais pas du tout, on est ravis parce qu'Atmen l'a vu, il a beaucoup aimé. Bon, je vais vous demander juste, c'est toujours agréable, 79 bonnes raisons d'aller le voir.
Non, non, j'ai pas envie. Mais la seule, non, mais je suis mauvais en promo. C'est un bon film, c'est un joli film.
Atmen,
aide-moi.
C'est un joli film. J'adorais les enfants. Et puis il y a plein de belles idées comme ça. À la Wes Anderson avec les cartes postales. Et le début est magnifique. Moi, ça me rappelait quand on faisait des manifs avec Devaquet, tout ça au début. Et puis vous êtes un beau papa. T'es un beau papa quand même. L'enfant, c'est toi dans la famille. Moi, je trouve.
Exactement. Je suis cornaqué même par mes filles. Je suis un peu ado attardé. Oui. Mais...
Il fait des sales lessives, il est nourri de cornflakes, il les éduque très très mal, mais il les prend dans ses bras, il y a tout le cœur comme ça de cette famille. J'ai envie que tu sois mon père.
On va y revenir tout de suite, je vais faire tous les trucs qu'on aime bien faire en promo, je le sais moi aussi. On va revenir sur l'enfance de Gus Kervern, comment s'est passé le tournage, et plein de trucs.
C'est très long.
Des cauchemars, à tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
Alors il y a des jeux, parce qu'Atmen, vous avez des idées de jeux avec Gustave Kervern.
Oui,
des
un petit jeu.
Il faut jouer un petit peu. Agréable le matin, là il est 8h27, on joue, il y a peut-être des enfants rassemblés qui refusent d'aller à l'école en ayant mis le thermomètre sur l'ampoule en disant j'ai 39, donc il faut jouer.
Je vous dis des noms, vous me dites ou cigarette ou chocolat chaud.
C'est vraiment des jeux comme dans des émissions de télé un peu craignos.
C'est un petit peu Vincent Perrault là, tu sais bien.
Cigarette et chocolat, parce que c'est le nom du film, vous avez compris.
C'est une finesse.
Si je dis par exemple Van Houten...
Chocolat, bien sûr.
Donc Marlboro, donc cigarette. Là, ça se corse. Si je vous dis Annie Cordy.
Ouh là là, c'est dur ça. Hein.
Chocolat. Oui.
Si je vous dis Juliette Binoche.
Cigarette.
Ah non, chocolat. Il avait fait un film.
Bon, on arrête ce jeu-là.
Si je vous dis Ulysse.
Non, c'est hyper intéressant.
Ulysse, si je vous dis Ulysse.
Ulysse, cigarette.
Ben voilà, parce que.
Parce que Cyclope.
Bravo, vous avez gagné.
C'est bien. Il n'existe plus des émissions télé assez ringardes pour faire ce genre de trucs.
C'était les jeux de 20h.
Il fallait que ça vienne ici. François Rollin, vous êtes l'honneur du jeu français. Vous avez décidé de remonter le niveau du jeu.
C'est un jeu qui est porteur de symboles très très forts. Vous allez vous en rendre compte à la fin. C'est très important, ça peut changer le cours de votre vie, celui de Gustave aussi, bien sûr. Vous proposer 6 paires de mots et vous devez à chaque fois choisir celui des deux mots qui vous parle le plus. Je ne vous demande pas davantage d'explications. La première paire de mots est celle-ci. Moutarde et perroquet. Vous choisissez.
Perroquet.
Et vous, Gustave?
Moutarde.
Ensuite, acrobate ou orange?
Acrobate.
Orange.
Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir comme...
J'ai compris.
Le troisième mot est rébellion ou lingerie?
Rébellion.
Lingerie.
Le troisième, intérêt ou esthétique?
Esthétique.
Esthétique.
Oui. Ensuite, navet ou tuyauterie?
Navet.
Navet,
je note. Et aventure ou univers?
Aventure.
Univers.
Et alors, voyez, maintenant, je prends la première lettre de chacun des mots que vous avez choisis, et ça me donne un mot qui vous redéfinit d'une façon très forte.
J'imagine déjà qu'ils
écoutent
ça chez eux.
Vous êtes Parena. Parena, P-A-R-E-N-A, Parena.
Ce sont les premières lettres de chaque mot que j'ai choisi.
Donc il n'y a rien qui se soit passé au hasard. C'est très profond, vous êtes profondément Parena.
Parena.
Et Gustave est profondément Molénu.
Ce sont les initiales des mots qu'il a choisi.
Regardez son regard, il est Molénu.
C'est vrai que je suis assez Molénu, mais c'est incroyable.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui écoutent ce qu'on est en train de dire?
Il y a des gens qui viennent de découvrir, qui ont fait leur choix devant leur poste de radio et qui viennent de découvrir leur nom magique. Et certains en tremblent encore.
Merci beaucoup François Rollin. Gustave Kervern, avez-vous l'impression que nous assurons une bonne promotion à votre film Cigarette et chocolat chaud qui sort demain?
Bien sûr, le simple fait d'être là, c'est déjà énorme, c'est extraordinaire.
Alors il faut pas voir, il y a Gaby Laferrière qui est passé nous voir, qui est réalisateur de C'est quoi cette famille, qui est un film qu'on n'attendait pas du tout, qui a très très bien marché cet été.
Oui.
Ça fait quoi de faire un succès, Gaby?
Eh ben, ça fait du bien.
Ah, ça... Vous aviez des soucis bancaires avant la sortie du film ou pas?
Non, j'avais pas, mais non, ça va.
Ça va la famille, la maison, ça va.
Le film a fait 748 000 entrées.
Oui, moi j'aimerais bien.
748 000
par personne.
C'était avec qui déjà?
Ah, ils sont nombreux. Il y a
Ariel Mallet, non ?
Ariel Mallet, Thierry Neuville.
Et là, vous réalisez, la série qu'Isabelle Nanty, la mule.
Je suis les deux premiers.
Elle est comment ? Elle est pas facile. Hein.
Non, elle est très très difficile.
C'est quelqu'un qui n'est pas.
Elle apprend jamais son texte.
C'est bien. Enfin, non, dis donc, il y a Thierry Paret qui veut dire son journal, mais il s'est mis loin. Pourquoi ?
Ah bah, je me suis mis pour voir un peu tout le monde.
Qu'est-ce que c'est que cette absence de mixité ce matin ? Je n'entends que des voix masculines.
Je prends un peu de recul.
J'en ai jusque là. Le journal de Thierry Paret, parce qu'il est 8h30, qui est une heure qui est très 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 aimé en ce moment.
Et on a visiblement.
Non, refaites un petit jingle mieux, parce que ça fait pas de rupture avec ce qui s'est dit avant.
Journal de Thierry Paret.
Non, mais envoyez un son qui fasse clac, clac.
Désolé, je peux pas.
Je crois que ça.
Appuyez sur quelque chose, appuyez sur quelque chose.
D'accord.
Le journal de Thierry Paret, 8h31.
On n'a visiblement pas fini de parler du Football League, ce vaste système d'évasion fiscale. Le fisc espagnol a décidé d'ouvrir une enquête. L'Office national de lutte antifraude espagnol a demandé au quotidien El Mundo, membre des 12 médias qui ont réalisé l'enquête Football League, de lui fournir tous les documents relatifs aux personnes citées pour fraude fiscale. Elles sont 37 personnalités concernées, enfin elles seraient 37, dont Cristiano Ronaldo, sacré ballon d'or hier soir. Le joueur portugais devance l'Argentin Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann. Le parquet de Nanterre ouvre une enquête, une de plus, enquête préliminaire pour but de faiblesse, elle implique Patrick Balkany, le député des Hauts-de-Seine et maire de Levallois-Perret, mais aussi sa première adjointe et compagne Isabelle Balkany. Un mariage serait la cause de cette enquête. Il est possible qu'il ait aidé ce mariage à débloquer une situation immobilière au bénéfice d'un proche des Balkany. Après 4 semaines d'une terrible offensive contre les insurgés, les forces du régime de Bachar al-Assad semblent en passe de reprendre le contrôle d'Alep. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est alarmé, lui, d'informations faisant état d'atrocités récentes contre des civils dans cette ville. François Fillon, en mode déminage, dans une tribune au Figaro, le candidat LR à la présidentielle affirme ne pas vouloir privatiser la sécurité sociale. Le programme de santé de François Fillon inquiète jusque dans son propre camp, ce n'est pas moi qui le dis, mais le Figaro. Guillaume Bachelet ou Olivier Faure, l'un des deux, va devenir ce matin le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale après le départ de Bruno Leroux, nommé ministre de l'Intérieur. Quant à Bernard Cazeneuve, il va présenter cet après-midi son discours de politique générale dans la même Assemblée nationale. « Je ne suis pas là pour éteindre la lumière », a déclaré le Premier ministre, qui n'a donc pas l'intention de se limiter à un rôle de gestionnaire.
Quelle lumière !
Oui, c'est vrai, en même temps.
Voilà.
Il reste 5 mois de mandat seulement. 12 jours et 3 millions de bulletins de vote recomptés plus tard. Le républicain Donald Trump est plus que jamais vainqueur de la présidentielle américaine dans le Wisconsin. En tout cas, la marge d'avance du milliardaire sur Hillary Clinton s'est même creusée de plus d'une centaine de voix, jusqu'à dépasser 22 000 votes au total dans cet état du nord des États-Unis.
Oui, parce qu'on recomptait dans le Wisconsin. Hein. Depuis
Exactement.
Ce matin, c'est pas clair votre truc. Vous n'avez pas redit parce qu'on recompte dans le Wisconsin.
Bah, tu viens
Alors
de le faire.
Je croyais que Trump n'était pas élu et qu'on attendait encore, parce que j'étais pas en France. J'habitais pas dans l'univers depuis un mois.
Et toujours à propos de cette présidentielle américaine, les chefs du Congrès américain ont annoncé le lancement prochain d'une enquête parlementaire sur les interférences russes dans le scrutin. Un juge de Barcelone annule une amende de 30 000 euros infligée par les autorités régionales de Catalogne contre Airbnb. Selon le juge en charge de cette affaire, il existe un vide dans la réglementation de ce nouveau phénomène de consommation qui ne peut être réglé par l'imposition d'une sanction. La menace de coupure d'électricité cet hiver s'éloigne. 7 réacteurs parmi les 8 actuellement à l'arrêt pour des contrôles sur leurs générateurs de vapeur vont pouvoir redémarrer d'ici la fin de ce mois de décembre, c'est confirmé. Et puis le coup d'envoi des 8e de finale de la Coupe de la Ligue de football. On a démarré avec le foot, on termine avec le foot. Marseille est attendu à Sochaux, Nantes reçoit Montpellier. Les autres rencontres auront lieu demain.
Merci, merci Thierry, il paraît.
Nova.
Cher Gustave Kerber.
Oui, je suis là.
Êtes-vous un homme du matin ?
Écoutez, oui, quand on a des enfants, on est forcément du matin. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui.
C'est les enfants qui commencent chez vous, qui vous
réveillent ? Non, mais moi, je suis très inquiet. Alors, je dors très peu, je me réveille, je gamberge. Là, par exemple, je suis réveillé à 5h du matin, j'ai pensé à plein de trucs. Enfin, voilà, je suis un homme moderne.
Vous avez
un homme stressé.
Des peurs ou des souvenirs, des regrets ?
Des peurs paniques. Non, mais c'est voilà.
Comment
c'est
vous
moi.
Faites ?
Bah j'attends que ça se passe, je reste tranquille, je reste zen dans mon lit, je réfléchis, j'essaie de trouver des idées, des trucs pour des films, enfin j'essaie de travailler un petit peu et puis après je me rendors doucement.
Vous avez des rituels le matin qui vous aident à alimentaire, des douches froides, des trucs
Non, je mange rien, je prends quelques cafés et je pars tout de suite de chez moi. J'aime bien aller dans les cafés tout de suite.
La peur panique, c'est toujours une peur de mourir, il n'y en a pas d'autre, si ?
Bah, écoutez, je voudrais pas plomber l'ambiance de cette émission,
non,
mais effectivement, j'ai peur de mourir. Tout à fait, professeur.
Ouais, voilà. Mais je voudrais vous dire une chose, Gustave, c'est que si depuis le temps vous n'êtes pas mort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme ça.
Bien sûr. Si vous n'êtes pas mort aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça ait lieu un jour.
Bien sûr que non.
Tout de suite, nous sommes avec Dad souvent dans la rue.
Oui, bah moi je suis effrayé de plus en plus ici.
Jack, vous êtes sur l'esplanade de la Défense, dans ces immeubles de bureaux du 92.
Je pars, c'est la dernière intervention ici. Alors il y a quand même un petit peu d'imaginaire dans toutes ces lignes droites ici, c'est qu'il y a quand même il y a des sculptures de Miro. Là je suis devant une sculpture de Calder, l'araignée rouge qui est en train d'être retapée par des... qui est entouré d'échafaudages, je suis en train de retaper les œuvres d'art.
Passez-moi puis, Patrick Balkany.
Et puis devant moi, il y a une autoroute vraiment, les gens, il y en a de plus en plus, là on s'approche de 9h sans doute, et il y a à peu près, je ne sais pas moi, des milliers de personnes qui circulent à toute vitesse. La seule façon que j'ai de rencontrer quelqu'un, c'est de rentrer dans cette autoroute, dans ce flux, je ne sais pas, ils sont à 6, 7, 8, 9 km/h.
Allez-y, je vais prendre une police d'assurance. Tiens, Eugénie, prends une assurance.
Donc on est en direct, voilà.
On y va, c'est parti. Madame.
Voilà, elle n'a pas le temps. Voilà. Bonjour monsieur, vous n'avez pas le temps. Bonjour madame, vous n'avez pas le temps.
Vous n'avez pas le temps. Non, merci.
Non, voilà, vous n'avez pas le
mais
temps.
Mais merci à quoi
vous n'avez pas le temps. Ta gueule. Vous n'avez pas le temps.
Non, merci. Non.
Merci. Même pourquoi si vous proposez quelque chose.
Bonjour. Je sais pas comment je suis habillé aujourd'hui. Je vais avoir un truc bizarre.
Vous êtes en train de remonter une file de voiture là.
On peut parler un petit bout ensemble.
Ça dépend.
C'est sympa. C'est pourquoi ?
À quelle vitesse ?
On ne sait rien, on doit être à 7 km/h, 8, 9.
On accélère fort pour aller travailler, là.
Par exemple, ici, il y a beaucoup de bureaux, etc. Il y a aussi quelques œuvres d'art, c'est sympa, ça fait un petit peu rêver. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase où ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve ?
Bon, j'en sais rien, en fait. Ouais. Voilà, je dors encore à moitié, je ne suis pas bien réveillé.
Bah, réfléchissez dans la journée. Au revoir.
Alors, sommeil au volant.
Le rêve, vous avez rêvé de quoi aujourd'hui ?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Non, pas grand-chose.
Vous pensez que cette phrase, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve.
C'est vrai. C'est-à-dire, si on rêve pas, on n'a pas de but. Si on n'a pas de but, on n'a pas d'objectif.
Et là, votre objectif, là, vous êtes arrêté dans l'autoroute, sur l'autoroute, c'est quoi ?
Je suis pas vraiment arrêté sur l'autoroute, je suis juste en retard au boulot. C'est pour ça que je rêve pas.
Salut. Hein. Bon, voilà, c'est une autoroute particulière ici. Les parapluies sont sortis parce qu'il commence à pleuvoir sérieusement. C'est peut-être pour ça que ça arrête pas trop non plus.
Bonjour. Merci, Jack.
Bonjour, désolé.
Désolé, j'ai pas le temps. Merci.
Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. 8-9 degrés sur l'autoroute ce matin, 8-9 km/h. Un homme avec un micro remonte des armadas de Renault, de Peugeot, de Nissan, de Samsung et d'autres noms japonais qui parfois ne cachent même pas des marques de voitures, mais simplement des marques en elles-mêmes. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre ça quand on part le matin à la Défense, quand on est en train de construire une carrière, une vie, un emploi, des points retraite, l'espoir de payer enfin son appartement et puis un jour enfin de mourir. Oui, Gus, vous allez mourir, pas tout de suite. Pas tout de suite.
Non, mais c'était une blague, hein, bien sûr.
Mais non, bien sûr. Allez, envoyez Achille Zamata, envoyez les clowns.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Romy, c'est quoi ce stage que tu fais chez nous alors ?
C'est un stage d'observation.
Et alors tu observes bien ?
Oui.
Qu'est-ce que tu as observé depuis que tu es là ?
Le studio.
Et alors tu as regardé les gens, tu as pris des notes ou pas ?
Oui.
Qu'est-ce que tu as noté par exemple ?
Je notais ce que je faisais dans la journée.
J'ai mis un petit papier. Tiens. François Rollin m'a pris de l'argent. C'est très bizarre ce truc-là. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle te fait faire Eugénie tôt le matin quand tu arrives ?
Elle me fait amener les croissants.
Ah bah bravo, bravo. Alors ça Eugénie, pour faire porter les croissants par des autres, bien, c'est agréable.
Le symbole est gros comme une maison.
Vraiment, de porter les croissants pour les autres, je cherche à voir. On est avec notre amie Marie-Françoise qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Marie-Françoise qui est à Hénin-Beaumont.
Oui, bonjour.
Salut Marie-Françoise, ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas parlé.
Ouais, c'est pas grave.
Si, c'est grave, je m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe à la friterie chez Gonzalez ? Comment se sont passées les dernières semaines ? Quelle est l'ambiance générale ?
Bon, alors, dans le désordre, on a eu la Sainte-Barbe,
oui.
Qui est la fête des mineurs et des pompiers, qui est très fêtée dans le coin.
Alors,
je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a plus de mineurs, mais bon, enfin bref.
Alors, ça, il se passe quoi ? C'est déguisé, c'est quoi, la Sainte-Barbe ?
Oui, en effet, il y a quelques personnes qui s'habillent en mineurs, il y a une messe. Alors que moi, j'ai connu la Sainte-Barbe, les mineurs qui se bourraient plutôt au troquet, mais bon, enfin bref.
Justement, Marie-Françoise, n'est-ce pas à nouveau un prétexte pour boire ces fêtes locales ?
Ici, c'est toujours un prétexte pour boire.
Okay, ici aussi, oui.
Oui, je vois ça.
Alors...
Donc, Donc, il y a eu la Sainte-Barbe. Évidemment, nous avons encore eu la visite d'une personne que je ne nommerai pas. Ensuite,
c'est Marine Le Pen qui vient très souvent vous voir à Alain Beaumont ?
Pas très souvent, pas si souvent que ça. À la Sainte-Barbe, pour fêter les monuments aux morts. Bon, enfin bref, j'ai pas eu encore assez de fonds pour le fameux monument aux morts, pour lui construire ce fameux monument aux morts.
Elle s'arrêterait enfin, chez vous ? Si elle s'arrête chez Gonzalès, à la friterie ?
Non,
ah, oh, ça fait de bon.
Je ne veux pas. Bon, enfin bref, peu importe. Ensuite, nous avons eu, ça c'était vachement bien, le Père Noël Rock. C'est-à-dire qu'il y a des concerts gratuits dans plusieurs cafés à Hénin-Beaumont. Les gens viennent avec un jouet et les jouets sont redistribués aux enfants qui n'ont pas de jouets à Noël. Alors ça, c'était très bien, dans un café qui s'appelle La Belle Anglaise à Hénin-Beaumont. La Belle Anglaise.
La Belle Anglaise.
Oui, c'est un peu là où on va écouter Radio Londres à chaque fois.
Et vous savez pourquoi ils l'ont appelé comme ça ? Le mec était amoureux d'une Anglaise qui est partie, on ne sait pas.
Non, pas du tout. Il avait une voiture anglaise, il avait une Triomphe quand il a ouvert le café. Donc il appelait ça La Belle Anglaise.
D'accord.
Mais ça, c'était très bien. Il y avait un groupe d'afrobeat, un groupe de raga. C'était vraiment très bien. Bon, sinon, je vais parler de vous. Alors, je suis très contente parce que j'ai beaucoup d'admiration pour François Rollin. Donc, je suis très flattée que vous m'ayez appelé le mardi.
Ah bah oui, il est là tous les mardis, François.
Ouais. Et en plus, je peux lui fournir de l'huile de friteur à foison.
Ah, vous avez écouté ses conseils capillaires de François ?
Ah oui. Le maroilles, l'huile de friture, il n'y a pas de problème, je peux lui en envoyer pour Noël.
Il va ouvrir une agence de mannequins, le François Rollin, bientôt, parce qu'il a des conseils beauté pour tout le monde.
Mais c'est très bien, mais il pourrait s'installer à Hénin-Beaumont. Très bonne idée.
François ?
Ah, c'est un peu mon pays natal, hein, par là-bas.
Vous êtes de là-bas ?
Je suis de Dunkerque, moi.
Ah !
De Malo-les-Bains, pour être précis, bon, pour ceux qui connaissent la digue.
Ah, d'accord. Donc, les canards valeux n'ont pas de secret pour vous.
Non, les harengs et tout ça, oui.
Ah, super.
Marie-François, je vous laisse parler à François hors antenne, parce que je pense que ça va chauffer, parce que là, c'est l'heure d'abord de sa rubrique, la description d'un tableau. Restez avec nous, chère Marie-Françoise. Alors qu'on ramasse les déchets de la Sainte-Barbe, morceaux d'êtres humains, verres vides, chapeaux de policiers laissés par terre, François Rollin, quant à lui, se livre à sa nouvelle activité culturelle, celle de 8h45, qui est de présenter un tableau pour tous les auditeurs de Radio Nova.
Rubrique Un jour, un tableau, rebaptisé ce matin Un tour, un jablot, pour faire honneur au surréalisme de Juan Miró, l'auteur de la toile que nous contemplons tous ensemble.
Regardez cette table de Miró, voilà. Cette toile.
Alors vous la connaissez cette œuvre, hein, c'est une des toiles les plus connues de Miró, elle s'intitule Femmes et oiseaux la nuit. On est séduit, comme toujours, non, par le caractère enfantin du trait de Miró. Regardez ici ces petites étoiles et ces petites comètes là qui figurent la nuit.
Ah oui.
Et puis ça, ici, ici et ici en dessous, on dirait des haltères. Hein.
C'est pas des haltères ?
Mais non, alors elles sont intactes ici, tordues ici, puis brisées là. Bon, ça c'est le décor. Alors le sujet maintenant, donc voyez l'utilisation toujours enfantine des couleurs, hein, vives et simples, en petites taches arbitraires, rouge, jaune, bleu, là. Ici au centre, je pense que c'est la femme, avec sa petite robe noire et sa tête de chat ou tête
alors,
de guitare.
Alors donnez une seconde pour les auditeurs pour bien regarder, voilà, vous voyez là. Voilà.
Voir bien.
Et puis, de part et d'autre de la femme, regardez ces oiseaux rigolos qui font penser au fameux Shadok de Jacques Rouxel. En fait, je devrais inverser la comparaison, puisque ce Miró date de 1946
oui,
et les Shadok de Rouxel viennent en 68.
Oui, fausse piste.
Et donc. Pour finir, alors regardez ça ici, là, cette espèce de quartier de lune vert clair qui semble sortir du bec de l'oiseau. C'est quoi pour vous ? Eh bien, c'est du Miró.
Ah, bah, c'est simplement du Miró.
Moi, je vois rien.
Merci, François Rollin. C'était Observons un tableau avec François Rollin. Qu'est-ce que tu en as pensé, Romy ?
Bah, j'aime bien.
Voilà, elle a vu le tableau dans les mots. C'est la force des mots, c'est la force de François Rollin.
Vous savez comment ça s'appelle, Edouard, hein, la figure de rhétorique qui consiste à décrire avec des mots si précis qu'on a l'impression de voir. Ça s'appelle une hypotypose.
Je ne le savais pas, mais vous êtes en train de me dire que nous n'étions pas vraiment en train de regarder un tableau de Miró.
Si, si.
Vous nous
si,
l'avez
si.
Fait croire.
Si, mais... Si,
vous
mais...
êtes un charlatan.
Bon,
faites tout cœur, battez tout cœur.
On fait de l'hypotypose.
De vos codes.
Ah ben, je ne le savais pas.
J'ai plein de consonnes en ce moment, je sais pas ce que
c'est
j'ai...
C'est beau, l'hypotypose.
Arrêtez ça. Jack Souvent est dans ce quartier d'affaires très étrange, à l'ouest de Paris, qu'on appelle La Défense. Il cherche à créer le contact. Où en est-il ?
Oui, bah là, je suis en contact physique, hein. Contact physique. Vous regardez la météo, vous, sur votre portable ?
Non, je regardais la ligne de métro qui pourrait fonctionner.
Qui est saturée, quoi ?
Complètement, comme tous les matins, on va dire.
Bah oui, il y en a qui me disent on n'a pas le choix. Bah non, on n'a pas le choix.
Donc on se rencontre, bonjour.
Bonjour.
On se rencontre en même temps quand on est serré.
Non, même pas. On baisse la tête et puis on essaye d'avancer.
Bah, vous baissez pas la tête, là.
Non, mais là, on rigole, mais oui.
Pourquoi vous êtes serré?
Oui, c'est sympa.
On est serré parce que ça bouchonne, c'est un entonnoir jusqu'à la ligne 1. C'est comme ça tous les matins?
Tous les matins.
Vous êtes dans les couloirs matins. Du métro, Jack?
Tout le temps.
Oui, je suis dans les couloirs.
C'est
du
comment
métro.
Le métro, m'en avait parlé. C'est le truc qui est sous le.
Oui, c'est un truc qui va sous la terre.
Mais c'est très bizarre. Donc, c'est quoi? Ce sont des sortes de canaux, comment on pourrait dire, des tunnels.
C'est des tunnels, ça s'engouffre. On est observé par des caméras de surveillance.
Par rapport à un taxi, c'est comme des trains souterrains.
On fait avec, me dit monsieur.
Oui, on fait avec. Ouais, on subit, on est obligé.
Oui. On n'a pas le choix. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Vous êtes sûr?
Oui, très bien.
J'aime l'idée qu'on trouve ça louche que quelqu'un aille bien.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Voix magnifique ce matin.
On subit. Voilà.
Ouais, mais c'est des voix.
Vous voulez pas vous révolter là?
Non.
On pourrait.
C'est comme ça tous les jours en fait maintenant. Tous les
jours. Ouais. Courage, hein. C'est vraiment. C'est des contacts physiques tous les jours, bonjour madame.
Non, moi, c'est la première fois que je prends le métro.
Que pensez-vous de ce contact physique?
Rien, j'en pense rien.
Que ressentez-vous alors?
Ça m'agace.
Agacé, je m'appuie alors. Un gros micro, bonjour.
Bonjour.
Agacé aussi?
Non, pas du tout. C'est très beau.
Qu'est-ce qui est beau?
Ce contact humain.
Ce corps.
Exactement.
Ce seul corps.
Yes.
Collectif. Yes. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va.
C'est vrai?
Ouais.
Vous êtes à peu près à 1m50 du sol?
Vous êtes très poli.
La tête dans une doudoune? Pardon, c'était pas terrible. Bonjour. Non. Ben voilà, c'est vraiment.
C'est beau, contact. C'est beau. Il y a tous ces contacts, toutes ces voix.
Bonjour.
Comme elles sont belles. Ces voix du matin.
Voilà,
ces voix en colère. Comme elle était belle la Révolution, comme nous l'avons aimée. Cette colère contre le métro qui n'arrive pas, contre ces trains en panne, contre ces bus qui s'enfuient quand on s'approche, contre ces taxis qui n'existent pas ou qui sont surfacturés. Comme elle était belle, notre colère, ce matin. Deux hommes en colère, c'est Christophe Méné et Atmen Khelif. Christophe Méné et Atmen Khelif, vous êtes là depuis 7h du matin. Vous m'avez dit, je n'ai jamais été dans ma carrière d'être humain, d'homme, de professionnel aussi peu exploité. Pourtant, j'en ai du talent, j'en ai d'énergie, j'ai la niaque.
On a plein la valise, quoi.
C'est ça. On avait des choses à dire, et c'est trop tard.
Parce que vous êtes venu.
On a bien les
clés. C'est Jaurès qu'on assassine, là.
Voilà. Vous êtes venu avec votre valise de poésie, d'émotion, d'invention.
J'ai plein
avec...
de gags, plein de jeux de mots, bien cracra, et on m'a tout coupé.
Et des jeux aussi.
Et des jeux. Et on n'a pas assez parlé du film de Gus, quand même. Il est venu
c'est
pour
vrai.
Ça.
On y vient.
Atmen l'a vu, il l'a adoré. Et moi, je suis fan de Gus.
Moi, si on est fan de lui, moi, je veux dire, quelqu'un qui a fait Louise Michel, on l'accueille un peu mieux quand même.
Il y a un capitaine à la tête de ce navire et ça n'est
il
pas.
Il peut y avoir une mutinerie
mais
aussi.
Le bateau tangue.
Écoute ton baba.
C'est vrai, ça devient n'importe quoi.
Il y a une raison peut-être pour laquelle on m'a mis à la tête de cette émission.
Oui.
Mon petit Christophe Delormeau. Alors aime ton baba. Alors on y reviendra, on se calme.
Sinon on laisse les marchés aux Américains et puis on les laisse faire des films.
Armel, tu envoies un morceau musical.
Ah,
ou une pub.
Ah, une pub, il y en a des très belles en ce moment.
7h, 9h, plus près de toi.
Okay, François, je vous ai senti très attentif pendant cette publicité Engie.
Oui, c'est celle d'après, c'est le dernier, c'est Nova, ce truc sur publicité sur Nova.
Oui.
Ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est peu connu, une station de radio qui est jeune, qui est dynamique, qui est formidable, qui est encore plus verte que toutes les verdures d'Engie.
Et pourquoi on n'entend pas parler de ce truc-là?
Alors, parce que la publicité coûte cher et que là, ils ont apparemment rassemblé leurs économies pour avoir un petit écran de pub.
C'est touchant.
Vous voyez, pas très long quoi, par rapport à Engie, on a que ça en tête. Mais bon, moi, j'ai été sensible à ça. Nova, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. C'est, alors après, vous dire comment on l'entend, ça, c'est... c'est technique, je ne sais pas trop, mais bon.
Peut-être en envoyant de l'argent.
Ça va. Ah oui.
Merci. Avec Tito en accompagnement flamenco toute la matinée, c'est le dernier plateau. Gustave, nous irons voir cigarette et chocolat
merci,
chaud.
Merci,
demain.
Les amis. Merci de votre soutien actif.
Tu écris un film là?
Oui, en août-septembre, on tourne avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, avec Benoît Delépine dans un.
Qui sont ces gens?
Où ça? Dans un campement, un village Emmaüs à Pau.
À Pau ?
Ouais.
D'accord. Et tu sais déjà, tu as tout le monde, tu as ta figuration, tu as...
Des gens d'Emmaüs, des compagnons.
D'accord. Tu sais où tu vas loger là-bas ?
Pas encore. On n'a pas l'argent.
Est-ce qu'on peut faire passer des CV ?
Faites passer. Christophe, vous avez été sous-exploité bien ?
Ouais, mais c'est bien parce que j'avais rien à dire.
Voilà.
De toute façon.
Mais vous l'avez dit,
mais
on vous a entendu.
Ah voilà, oui. C'est ça.
J'aime beaucoup Christophe. Oui. Il dit peu de mots, mais toujours sensé.
Non, mais il en dit peu. C'est ça qui me
Merci
Christophe, merci Edmène, merci François Rollin, merci Tito, les 30 Glorieuses, Thierry Paré, merci.
Rungis.
À demain, on sera à Rungis. Demain, nous sommes à Rungis en direct, j'ai oublié de vous le dire, au marché alimentaire de Rungis en direct. Salut, salut, merci Tito.
Plus près de toi. Point final.